Alors, d'abord, une information, la photocopieuse fait des caprices. Françoise est en train de s'arracher les cheveux. Donc, c'est fort possible qu'elle puisse pas faire les lectures conseillées. Donc après, soit vous êtes patient et vous attendez la prochaine fois pour les avoir, soit vous les téléchargez sur le net, sur le site. Donc si vous avez, je crois qu'il y a au moins 3 copies, donc peut-être 3 personnes pourront les avoir sur dur. Sinon après, vous pouvez aussi aller à l'accueil si vous avez déjà donné les 8 euros, donc pour vous faire rembourser les 8 euros. Donc on s'excuse de ce contretemps, mais c'est absolument, comment on dit, indépendant de notre volonté. J'ai l'impression d'être à la SNCF là. Donc après, si de toutes les façons, par rapport au module, vous voulez faire les lectures en temps et en heure, il y a toujours la possibilité d'Internet, donc aucun souci. Allez, on reprend avec une petite méditation sur le souffle, comme ce matin. 8 minutes, puis après on enchaînera sur toujours la méditation pour développer une attitude bienveillante. C'est parti! et en génère, comme ce matin, l'attitude bienveillante, d'amour qui souhaite que tous les êtres obtiennent le bonheur et les causes du bonheur, ainsi que la compassion qui souhaite que tous les êtres, sans la moindre exception, puissent être libres de la souffrance et de ses causes. Et on maintient ces deux attitudes d'amour et de compassion pendant 5 très bonnes minutes. Ok. Alors, ce matin, on a vu un petit peu les qualités que devait posséder un maître pour être qualifié au niveau donc, du Hinayana pour, par exemple, donner refuge et surtout les vœux de fidèle laïc, les vœux de moine. On a vu les qualités, les 10 qualités d'un maître du Mahayana. Si on ne trouvait pas quelqu'un avec ces 10 qualités, on pouvait donc après comment dire, choisir donc quelqu'un qui ait 5 qualités, mais pas des moindres. Et finalement, si on ne trouvait pas une personne avec même ces 5 qualités, se rabattre, voilà, sur une personne avec 3 qualités, plus de qualités que de défauts, penser plus aux autres qu'à soi-même, penser plus aux vies futures qu'à celle-ci. Un autre aspect aussi qu'on doit prendre en compte dans notre choix pour prendre quelqu'un comme maître, donc c'est de s'assurer bien sûr qu'il ait les qualités requises. Et puis après, il y a un autre critère aussi, c'est que il y a une connexion avec lui. Qu'est-ce que j'entends par connexion? Ben, tout simplement, c'est que la manière d'être de la personne nous convienne. Si la manière d'être de la personne, il y a plein de trucs qui nous ont tendance à nous énerver, etc. Ça va être très très difficile d'étudier auprès d'une telle personne. Surtout qu'on va voir, il faut essayer de développer des états d'esprit plutôt positifs, vertueux à l'égard du maître spirituel. Donc s'il y a plein de trucs là qui passent pas dans son comportement, je sais pas, ça peut être un truc tout bête. Des fois les Tibétains, au niveau culturel, ils ont pas les mêmes critères que nous. De ce qui se fait, de ce qui se fait pas, et par exemple, un Tibétain, il peut avoir les bronches un peu prises, et puis il va prendre juste un mouchoir, et puis il va le mettre en disant comme ça, puis il va bien, bien, bien racler la gorge, et puis cracher dans le mouchoir. Donc si ce genre de choses nous dérange vraiment trop, et qu'on en est confronté encore et encore, là, ça peut être assez difficile. Donc là, c'est un tout petit détail de rien du tout, mais il peut y avoir d'autres choses un petit peu de cet ordre-là, ou dans le comportement, qui vraiment ont tendance un petit peu à nous irriter. Donc là, il vaut mieux effectivement, si c'est le cas, pas s'engager dans la relation, parce qu'on pourrait développer pas mal d'attitudes, un petit peu d'aversion à l'égard de la personne, et c'est pas génial. Après, même aussi au niveau connexion, ben on peut entendre la manière d'enseigner. Il y a des maîtres qui ont des manières d'enseigner complètement différentes. Il y en a qui peuvent nous convenir, d'autres ne pas nous convenir. Okay, donc il va falloir essayer d'aller tout simplement là où on a plutôt des atomes crochus. Après, par rapport aux différents types de maîtres, donc on peut vraiment aussi le regarder en termes de progression. Okay? Donc dans un premier temps, pas s'engager dans la relation avec la personne, examiner quelle est la qualité. Après, elle peut devenir notre maître au niveau de refuge, des vœux, par exemple de fidèles laïcs. Ensuite, encore avec le temps, peut-être qu'on approfondit un petit peu notre pratique et on veut s'engager sur la voie des bodhisattvas, prendre les vœux de bodhisattvas, etc. Et à ce moment-là, la même personne pourrait devenir notre maître au niveau du Mahayana. On pourrait continuer à parcourir comme ça un petit peu le chemin et puis donc s'engager sur la voie du tantra et cette même personne, si elle a les qualités requises, devenir notre maître au niveau du tantra. Donc là, on voit vraiment, par rapport à la réflexion que je vous proposais dans le contexte des méditations, voir qu'il peut vraiment y avoir quelque chose de très très progressif. Okay. Après, aussi, on peut avoir différents maîtres. Un maître qui va nous donner le refuge, mais c'est au niveau du Mahayana, on va prendre quelqu'un d'autre, comme enseignant, etc. Au début, le conseil qui est donné, c'est plutôt très peu de maîtres, et vraiment bien dépendre de ce maître-là pour progresser. Plus on va développer de qualité, peut-être plus on peut prendre de maître. Donc il y a un peu y a une histoire qui raconte qu'il y avait 2 maîtres tibétains qui parlaient justement un petit peu de la relation de maître à disciple et du nombre juste et opportun de maîtres à avoir. Ils sont arrivés à la conclusion de dire au début un nombre très très limité, peut-être voire un, peut-être deux, et puis plus en fait, le pratiquant développait de très très grandes qualités, et peut-être au niveau du tantra, etc., à ce moment-là, peut-être un grand nombre aussi pouvait être satisfaisant. Donc peut-être qu'à notre niveau, il faut plutôt opter pour la première possibilité. Après aussi, dans les textes, on parle, ou même les pratiquants parlent parfois de maître racine. qu'est-ce que c'est qu'un mètre racine. Donc les textes vont présenter différents critères. Je pense que la plus adaptée pour nous, celle qui nous convient mieux, le mètre racine, quand on dit mètre racine, on parle de mètre principal. Et c'est l'individu, le maître, qui va avoir le plus d'impact par rapport à notre transformation intérieure. C'est la personne qui va nous inspirer le plus pour effectuer cette transformation intérieure. Ensuite, aussi dans les textes, on parle de maître extérieur et de maître intérieur. Alors, ce qu'il faut absolument pas oublier, bien garder présent à l'esprit, c'est le maître extérieur, à quoi il sert. Donc, pour être sûr que vous vous endormiez pas, je vous pose la question. Vous avez bien mangé? Il enseigne pour quoi faire? Pour changer notre façon de voir à l'intérieur de nous. Donc il y a quelque chose d'extérieur qui est fait pour nous amener à l'intérieur. D'accord? Donc le maître extérieur, effectivement, il nous présente des méthodes de transformation pour nous amener à une transformation intérieure. Et au bout du compte, en fait, dans certains écrits, on peut voir qu'il est dit que le maître extérieur, il est là pour nous montrer le maître intérieur. Selon vous, qu'est-ce que ce serait que le maître intérieur ? L'esprit. Alors, l'esprit, mon esprit ignorant, est le maître intérieur. Je suis mal barré, là.
Celui qui nous fait voir intérieure.
Celui qui nous fait voir... Donc, attends, prends le micro, parce que il fait trop chaud pour que je répète. J'ai l'esprit qui est un peu mou, là.
Celui qui nous fait prendre conscience de notre capacité intérieure.
Donc ça, c'est le maître intérieur. Peut-être le maître extérieur, justement, c'est son boulot. Nous montrer ce qu'est le maître intérieur. Qu'est-ce que c'est que le maître intérieur, alors ? J'ai oublié ton prénom. Olivier. Olivier nous propose, c'est notre éthique, c'est notre concentration. Notre sagesse, c'est ses perfections. Donc là, effectivement, le vrai maître intérieur, c'est... En fait, le maître extérieur, qu'est-ce que c'est ? C'est un être qui a de l'éthique, qui a de la concentration, qui a de la sagesse, qui a l'esprit d'éveil, qui s'entraîne dans les six perfections, etc. Et tout ceci, ce sont les réponses aux problèmes. Donc, pour l'instant, on n'a pas les réponses aux problèmes. On trouve ces réponses à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre. Cette personne, son boulot... Il n'est pas maître de manière absolue, ultime, etc. Il a juste un rôle à jouer, c'est de nous introduire à ces mêmes qualités que lui a générées pour qu'on puisse les reproduire en nous, pour qu'on puisse se libérer du problème. N'oubliez pas quelle est la motivation de base, en fait, pour s'en remettre à un maître. La motivation de base, on aspire au bonheur, on ne veut pas de la souffrance. On développe une compréhension de ce qu'est le véritable bonheur et... On s'évertue de créer les causes de ce bonheur. Okay. Donc, en fait, on pourrait dire que le maître intérieur, effectivement, si on parle d'une manière très, presque, on va dire, ultime, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être la sagesse qui réalise directement la vacuité. La sagesse, le maître intérieur. Oui, le maître intérieur, qu'est-ce que ça va être ? Notre sagesse qui réalise directement la vacuité. Pourquoi ? Parce que cette sagesse qui réalise directement la vacuité, c'est bien l'esprit, mais c'est une caractéristique de l'esprit. Hein ? Ouais, mais c'est l'esprit. Ouais. C'est donc cette sagesse, elle va nous permettre de détruire la cause même de toutes nos souffrances. Elle va nous permettre de détruire l'ignorance. Et dans un enseignement de Sa Sainteté le Dalai Lama, le Dalai Lama va encore donc beaucoup plus loin. Il va chercher l'aspect le plus subtil. Qui est la réponse la plus profonde, et il dit que le maître intérieur, le maître ultime, c'est l'esprit le plus subtil, et dans ce contexte, c'est l'esprit le plus subtil qui réalise la vacuité. Donc, l'esprit le plus subtil qui est utilisé, qui est transformé en sagesse, et qui réalise donc la vacuité de soi-même et de tous les phénomènes, et à ce moment-là, automatiquement, on abandonne toutes les perturbations mentales, toutes les causes de souffrance. D'accord ? Donc, j'ai parlé du maître extérieur, j'ai parlé du maître intérieur, c'est très bien tout ça. Donc, ce matin, on s'en est arrêté au
Tantra, troisième niveau.
Tantra, troisième niveau, Nang. juste avant ça. Au faux maître. Donc après, il faut pas se leurrer. Malheureusement, j'aimerais bien ne pas avoir à parler de ça, mais il y a une réalité qui fait que est-ce que tous les personnes qui se présentent comme étant des maîtres spirituels sont des maîtres qualifiés, sont des maîtres authentiques, c'est-à-dire qu'ils ont les qualités requises? Non. Ok. Il y a dans un enseignement que sa sainteté avait donné, je crois, en Inde, il a dit qu'il y avait certains tulkus, donc des soi-disant réincarnations de très grands maîtres, des tulkus, des Rinpoche, qui étaient, en anglais, il a employé le mot « disgrace », donc on pourrait dire une honte. Honte pour le bouddhisme, pour leur statut, le statut qu'ils incarnent, et qu'ils ne portaient que le nom de tulku, parce que tulku, ce qu'on veut dire vraiment, ça veut dire « corps d'émanation », et ça se réfère généralement à un corps de Bouddha. Et il disait, ils ne portent que le nom et ils n'ont pas la moindre qualité qui correspond à ce nom. Donc c'est une réalité. Il y a des gens qui ont des titres à rallonge, mais qui n'ont pas les qualités requises qui correspondraient à leur soi-disant statut de maître spirituel. D'accord ? Là, ça fait réagir Philippe. Allez, t'as pas encore parlé le week-end. Je t'apporte le micro. Par voie interposée. Tulku. Tulku, on l'écrirait T en français T-O-U-L-K-O-U. T-O-U-L-K-O-U. Vas-y Philippe.
Tout d'un coup, ça me fait venir à l'esprit. Est-ce que ça remet pas un peu en question la reconnaissance?
La reconnaissance des tulku?
Ouais.
Donc déjà, ce qu'il faut voir, ça, c'est que c'est encore un problème purement tibétain. C'est quelque chose qui est purement qui est apparu dans la culture tibétaine. Ça n'existait pas avant. Le premier tulku qui a été reconnu, c'est il y avait un maître, je sais plus son nom d'ordination, mais qui était le premier karmapa. Et ensuite, donc, on a, quand il est décédé, après, on a reconnu une soi-disant incarnation de ce karmapa, donc le deuxième karmapa, et c'est parti à partir de là. Donc après, il y a eu les dayama, etc. Mais avant ça, en fait, il n'y avait absolument pas ce principe de réincarnation, de tout le coup. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y avait pas d'être réalisé? Non, c'est par rapport à la culture tibétaine, par rapport à ce qu'étaient les Tibétains, il y a eu ce besoin un petit peu d'officialiser et de reconnaître une succession d'individus qui faisaient partie de la même continuité. Mais c'est un petit peu, d'une certaine manière, un peu un paradoxe aussi, parce que si vraiment un être développe des qualités très très élevées, par exemple Romain, là, dans son devoir qu'il a rendu par rapport à la présentation du chemin, il est rentré assez dans le détail et puis il a développé un petit peu les qualités que développait un bodhisattva qui avait réalisé directement la vacuité sur la première terre, la deuxième terre, la troisième terre, la quatrième terre, etc. jusqu'à l'état de Bouddha. Et donc en faisant ses recherches, il en est arrivé à écrire qu'un Arya bodhisattva, la première terre, en fait, il était capable de générer 100 manifestations. Vous avez un être qui a un esprit extrêmement pur, il va être capable de générer 100 manifestations. D'accord? Donc, vous imaginez, cet être, il pratique, il développe des traits de réalisation. On imagine, par exemple, entre guillemets, il meurt, cette forme grossière, son corps grossier, meurt. Donc, il a la capacité de générer 100 autres corps. Lequel on choisit comme réincarnation? Et là, c'est qu'à la première terre, plus on va monter dans les terres, plus il va y avoir une capacité de générer un nombre accru de manifestations. Tout simplement dire qu'un être, un individu est un Bouddha. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez, je crois que je vous ai un petit peu grossièrement expliqué ce qu'était un Bouddha, non? On le définit en tant que quatre corps. Vous vous rappelez les quatre corps du Bouddha? On va simplifier, trois corps, allez. Corps de forme. Et le corps de vérité, donc là ça fait deux. Donc il y a un troisième corps de jouissance, mais on va pas arriver à le caser dans ces deux. Donc si on simplifie deux corps, corps de vérité qui correspond à la, tout simplement l'esprit du Bouddha et le corps de la forme du Bouddha. Donc l'esprit du Bouddha, c'est un état d'esprit complètement omniscient, avec un amour, une compassion parfaite, etc. Le corps de la forme, on peut le diviser en deux. Le corps de jouissance, nous dit Myriam, qui possède cinq caractéristiques, et donc en simplifiant, c'est une manifestation à la, sur la base de cet esprit extrêmement pur. Le Bouddha manifeste une forme, cette forme est uniquement perceptible par des Arya Bodhisattvas, c'est-à-dire des bodhisattvas, des êtres qui ont l'esprit d'éveil, le souhait d'atteindre l'illumination pour le bien de tous les êtres, et qui ont réalisé directement la vacuité. Cette manifestation n'ancienne que le Mayana, etc. Donc il y a cinq caractéristiques comme ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement subtil qui est perceptible par un nombre d'êtres extrêmement limité. Seulement les Arya Bodhisattvas. Donc, ce Bouddha, il a la capacité de générer ce qu'on appelle les corps d'émanation, tulku, ok, et il a la capacité de générer un nombre infini de tulku. Donc en fait, quand, si on dit qu'un être est un Bouddha, si vraiment en fait c'est une manifestation d'un Bouddha, ce n'est qu'une manifestation, une des manifestations d'un Bouddha. Le Bouddha est quelque chose de beaucoup plus ample. D'accord. Et par exemple, par rapport à ce que tu disais, Philippe, le Dalai Lama, il trouve que par rapport à la culture tibétaine, il y a vraiment des abus, il y a vraiment une dégénérescence par rapport à ce principe, par rapport à ce statut de tulku. Et donc, dans un de ses écrits, il mentionne qu'il parlait un jour avec, je crois que c'est Samdong Rinpoche, ou peut-être un de ses prédécesseurs, donc c'était le chef du gouvernement tibétain, un petit peu l'équivalent du premier ministre tibétain, et il disait, bon, il faudrait quand même faire un petit peu le ménage, etc. Il faudrait arriver à reconnaître que vraiment les très, 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 très grandes tout le coup, c'est-à-dire des êtres extrêmement réalisés, okay, pour arriver à clarifier un petit peu la situation, parce qu'il y a des dictons dans la culture tibétaine qui disent que dans les monastères, par exemple, ils disent, même le cuisinier, il va avoir son tout le coup. Parce qu'il y a de tels intérêts politiques, financiers, de pouvoir, etc., que on a tout intérêt, les gens qui font partie d'un groupe, etc., donc qui a une certaine position, il a tout intérêt à pouvoir reconnaître un tulku, parce qu'automatiquement, ils pourront conserver ce pouvoir, ses richesses, etc. D'accord? Et donc, quand le Dayama disait ça, le premier ministre a dit, ce serait bien, mais ça, c'est pratiquement impossible, parce que c'est tellement ancré, en fait, dans la culture tibétaine, les Tibétains tiennent tellement en estime ce fonctionnement et le statut de tulku que ce serait pratiquement une mission impossible à faire. Nous, on est à l'origine pas du tout tibétains, donc dès le départ, on n'a pas vraiment à s'embarrasser de ce système, et il faudrait qu'on s'embarrasse essentiellement de quoi ? Tout simplement des conseils qui nous sont donnés par le Bouddha Shakyamuni et tous les très grands saints indiens et tibétains, à savoir bien comprendre quelles sont les qualités requises pour un maître, pour qu'il soit qualifié, s'assurer que la personne possède bien ses qualités.
Je vais en profiter pour poser la question que je voulais te poser ce matin. Qui était dans la relation, enfin dans la demande du disciple au maître, c'est-à-dire de devenir son maître, est-ce que le maître peut refuser s'il ne sent pas que cette relation est effectivement de bon augure ou...
Oui, il pourrait, pourquoi pas. Tout le monde est libre, non ?
Non, tu dis il pourrait, mais...
Tout le monde est libre. Non, mais je pense que par exemple, même peut-être c'est fort possible que si quelqu'un a franchement des qualités très très élevées, il voit que par les connexions, donc dans le jargon bouddhiste on dirait les connexions karmiques, il pourrait voir que la personne a des connexions plus fortes avec un autre maître et l'envoyer à cet autre maître, par exemple. Ouais.
Oui, une question. Les émanations, donc les tulku, c'est des personnes physiques.
Dans le cas présent, donc il y a différents types de corps d'émanation, et il peut y avoir des émanations physiques, de corps physiques, oui.
Alors, est-ce que ces corps physiques, enfin donc ces personnes humaines en finalité, expérimentent des choses douloureuses dans cette vie ?
Donc c'est un sujet très très délicat qui est, par exemple, dans les grands monastères, sujet de débat, de très très grande réflexion. Et une émanation n'est qu'une émanation. Elle ne fait que émaner. C'est pas un être à proprement parler. Donc après, il peut manifester ce qu'il veut. Il peut manifester, expérimenter la souffrance, mais ce n'est qu'une manifestation.
C'est une manifestation qui est là pour faire avancer les autres, en fait.
Si c'est une véritable émanation d'un Bouddha, là, c'est quelque chose qui est purement et simplement issu de la sagesse et avec comme motivation spontanée, vous inquiétez pas, c'est les verres là-bas, comme motivation spontanée, non fabriquée, l'amour et la compassion. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette manifestation, cette émanation, elle prend forme en dépendance aussi du karma des êtres. Et là, le karma des êtres peut donner à cette émanation une forme très ordinaire.
D'accord, mais la personne en elle-même a atteint un tel niveau d'évolution
spirituelle. On ne voit pas la personne. Ce n'est qu'une émanation. Mais de part, par exemple,
reste élevée. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on a atteint cet état de Bouddha et qu'on en est une émanation, on ne peut pas perdre ce qui a été acquis, même si on a une.
L'état de Bouddha ne dégénère pas. Mais là, il faut peut-être. Il faut prendre le problème d'un autre point de vue, parce que nous on regarde juste, là on est là, et puis il y a quelque chose qui est là qu'on peut percevoir. Et on est en train d'essayer de comprendre ce qu'est un Bouddha en regardant ça. Alors, il ne faut pas faire comme ça. Vous prenez l'essence de ce qu'est un Bouddha, l'esprit omniscient. De cet esprit omniscient, c'est un peu comme un soleil. Il y a une manifestation extrêmement pure, subtile, qui est uniquement perceptible par des êtres extrêmement avancés. Ensuite, ce soleil, il irradie une infinité d'autres formes, okay, pour venir en aide aux êtres. Ce qu'on voit, c'est qu'une forme, l'essence avant tout, qu'on pourrait presque dire du Bouddha, elle va se trouver là, nous on ne l'aperçoit absolument pas. On ne perçoit qu'une toute petite parcelle qui n'est qu'une fabrication à partir de la sagesse, l'amour et la compassion. Okay. Donc, il y a des faux gourous. Il y a aussi des personnes qui peuvent avoir certaines qualités, okay, mais qui ne sont pas complètement stables. Et elles se trouvent dans des circonstances plutôt favorables, genre on pourrait penser à un monastère, etc. Et puis, elles sont amenées à se retrouver dans des circonstances complètement autres, genre aller en Occident, avec un mode de vie complètement différent, des relations avec les autres complètement différentes. Et la personne, elle a une motivation à la base qui est extrêmement pure, démarche intérieure, etc. Même pour venir en Occident, mais à force de se retrouver dans ce nouveau contexte, comme il n'y a pas une stabilité, il y a certains éléments extérieurs qui peuvent faire dégénérer ce qu'il est, ok, et qui peuvent l'amener, par exemple, à avoir des comportements déplacés. Tout simplement, on peut prendre l'exemple d'une personne qui serait ordonnée, un moine, ok, puis il vit dans son monastère, il n'est pas en contact, par exemple, avec les femmes, et il a une motivation très pure, etc. Et il n'y a pas d'attachement manifeste qui est généré. Il se retrouve en Occident, où en fait il se retrouve peut-être tout seul, sans autre personne ordonnée, ou une ou deux personnes ordonnées, et puis il se retrouve dans une position où il est confronté à beaucoup de personnes, aussi entre autres des femmes, et puis aussi ce qui se passe, c'est de par un concours de circonstances, les personnes vont le regarder, vont le mettre sur un piédestal. Okay, vont lui imputer des qualités peut-être qu'il n'a pas, et des projections, et à la base, la personne, elle veut pas forcément ça. Okay, mais bon, c'est une réalité. Et parfois aussi, il peut y avoir des personnes qui ont des comportements déplacés. Donc là, j'en profite pour dire, par rapport aux personnes ordonnées, par rapport aux moines, aux nonnes, etc., même par rapport au lama, il faut avoir un comportement descend au niveau humain, hein, vraiment un comportement de respect, et parfois ça peut arriver que même inconsciemment certaines personnes commencent un peu à tomber dans un jeu de séduction, etc. Donc là c'est vraiment des attitudes complètement déplacées qui peuvent être un facteur qui fait que justement l'individu, après par exemple une personne ordonnée, dégénère. D'accord. Donc il y a par exemple des moines, bon ben ils sont dans leur monastère, ils ont pas une compréhension, ils savent pas la réalité de leur vie, de ce que sera leur vie en Occident. Et après, ils sont confrontés, donc ça peut dégénérer. Et puis, si on les a mis sur un piédestal, etc., bon, ben, il y a quand même de l'attachement d'une part, peut-être un peu d'autre, etc. Puis après, bon, ben, ça fait un peu, ça donne une direction tout autre. Et comme on a mis la personne sur un piédestal, on comprend pas. Mais donc là, il y a aussi une faute de notre part de projeter des choses qui ne sont pas réelles chez l'autre. Après, comme je vous ai dit, il peut y avoir, donc, peut-être c'est plus fréquent. Donc là, je généralise absolument pas. Hein. Je vous parle de cas de figure qui se produisent, et donc il faut être vigilant, il faut être un petit peu attentif, et il faut vraiment utiliser son sens de la discrimination et donc bien s'assurer de prendre le temps de regarder les qualités. Et donc peut-être dans les traditions qui mettent plus l'emphase sur le tantra et moins sur l'importance de l'éthique de base, la moralité de base, de s'abstenir des actions non vertueuses, etc. Parfois, il peut y avoir donc des déviances et entre autres par rapport à des relations sexuelles, puisque dans certains textes du tantra, on parle d'utiliser cette énergie sexuelle. Donc, il y a des cas de figure aussi de maîtres, de pratiquants qui peuvent utiliser soit leur statut ou soit ces aspects de la pratique comme prétexte pour aller dans ce genre de comportements qui sont déplacés. C'est absolument complètement inacceptable et erroné. Et là, quel que soit le statut de la personne, on peut être catégorique et dire non. Et c'est absolument pas quelque chose qu'il faut encourager. Et donc là encore, il faut bien être vigilant et bien utiliser son sens de la discrimination. Le micro pour devant. Donc avant qu'il arrive, il y a autre chose qui me vient à l'esprit, c'est dans le bouddhisme, on parle de la générosité. La générosité, c'est une très belle chose. La générosité pour supporter pour aider le développement de projets par rapport au dharma, c'est une très bonne chose. Donc, spontanément, si vous demandez à un lama, est-ce qu'il faut donner de l'argent pour tel ou tel projet, il va dire oui, bien sûr, surtout si c'est sur son projet. Mais après, peut-être que vous débutez, etc., il faut encore garder les pieds sur terre, le sens du discernement. Vous n'allez jamais vous dépouiller, okay, pour permettre de réaliser le projet de quelqu'un d'autre. Et quelqu'un, donc, peut avoir des très belles paroles, vous dire oui, c'est très très bien, etc., donc fais-le, etc. Donc vous donnez tout votre argent, mais au bout du compte, en fait, vous allez vous retrouver dans une situation extrêmement difficile, et la personne, peut-être qu'elle déjà ne pourra pas vous aider, peut-être qu'elle ne voudra pas vous aider, etc. Et par exemple, donc vous faites un très gros don, et puis après vous générez du regret par rapport à ce que vous avez fait. Au niveau du karma, c'est-à-dire de l'intention mentale qui est générée intérieurement, donc il y a une bonne action. Mais de par le regret qu'on génère après, on annule complètement ça. Donc là aussi, il faut être clair. Effectivement, dans les textes, on dit la générosité, eh bien, même on va voir que la générosité envers le maître, c'est une bonne chose. Mais ça doit être encore des actes qui sont faits en pleine compréhension de pourquoi, comment, etc. Et de s'assurer qu'on ne se met pas dans une situation difficile, instable, où on va générer de regrets après. D'accord ? Donc si vraiment le maître est authentique, si vraiment le maître a pour principal objectif de prendre soin de vous, il ne vous mettra jamais dans une situation délicate. Mais si il n'a pas forcément toutes les qualités, okay, ou il n'a pas une conscience de conscience de tous les paramètres, etc., il va peut-être vous dire oui, c'est bien, mais il vous met dans une situation difficile, et après, bon, ben, vous serez un petit peu tout seul à devoir vous dépatouiller. Gisèle.
Oui, par rapport aux abus, on est plusieurs à avoir lu l'article de Marianne sur le temple Lerabling, où Soga Rinpoche, qui est quand même un maître vraiment reconnu, a été remis en cause pour abus sexuels. On voudrait savoir s'il y a eu des démentis, enfin, où ça en est, parce que c'est un peu surprenant.
Donc, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est donc il faut jamais se départir du sens de la discrimination, et si les gens ne se départissent pas de ce sens de la discrimination, ils peuvent se mettre à l'abri de telle situation. Donc est-ce que dans le cas de ce Soga Rinpoche, ça s'est passé, ça s'est pas passé, si ça s'est passé, c'est un acte très répréhensible, qui n'est pas correct. Et on ne peut pas utiliser comme prétexte le statut de très grand maître spirituel, très grande réincarnation ou très grand pratiquant tantrique pour faire ce genre de choses. Donc si c'est fait, c'est absolument pas, on peut absolument pas le cautionner. Si c'est pas fait, bon ben c'est pas fait.
Comment on va savoir si si on peut toujours avoir confiance en lui ou pas?
Donc après, déjà, c'est je pense c'est s'il y a un incident juste périodique, isolé, ok, la personne le reconnaît, c'est bien, on peut continuer. Si ce sont des choses qui se répètent, etc. Après, nous, par exemple, en tant que disciples, si on procède d'une manière correcte, juste, il y a des doutes très prononcés par rapport à un cas de figure, on imagine un cas de figure semblable à celui-ci. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, tout simplement se dire, là, peut-être il y a anguille sur roche, peut-être que je vais aller voir autre part, dans un endroit où la personne montre très clairement, mettre l'emphase sur une éthique et où il n'y a pas ce genre de problème.
Oui, on a un peu de mal avec Sogyal Rinpoche, parce que comme c'est quand même quelqu'un qui est vraiment très reconnu, même si de la part du disciple, il y a eu un comportement qui n'était pas correct, que lui, il ne puisse pas réagir par rapport à ça.
Donc après, si un maître, quel que soit son statut, a ce genre d'attitude, c'est une attitude qui est très répréhensible et on ne doit absolument pas la cautionner. Et là, par rapport à ce genre d'attitude, nous, en tant que disciples, ça devrait nous pousser à dire « je ne prendrai pas une telle personne comme étant mon maître ». Par exemple, le Dalai Lama, beaucoup de très grands maîtres disent « l'aspect extrêmement important, l'aspect de base, c'est l'éthique ». L'éthique n'est pas respectée, allez voir ailleurs.
Moi, je voulais, pour compléter, est-ce qu'au niveau du bouddhisme, mais pas en tant que philosophie, mais en tant qu'organisation qui organise une diffusion d'enseignement, donc ne serait-ce qu'à travers l'AFPMT, est-ce qu'il y a un système qui, malgré tout, amène une vigilance sur ce type de comportement et qui pourrait éventuellement être un peu régulateur ou éviter que des personnes qui ont comme ça une aura, enfin une reconnaissance enfin qui à ce niveau-là puissent éventuellement être remis en question ou qui est quand même un minimum de vérification. Est-ce que ça existe?
Donc au niveau du bouddhisme en général, non. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas une autorité suprême qui aurait le pouvoir de faire ça. Au niveau de certaines fondations, comme le FPMT, ils essayent. Donc le FPMT a été confronté dans le passé à des problèmes beaucoup moins graves qui vont pas jusqu'à des abus sexuels, etc. Mais donc ils essayent de réguler, ils essayent de trouver les réponses pour tous les partis, en fait, pour pas se retrouver dans des situations délicates. Mais après, en fait, la réponse là, elle est avant tout ici et maintenant. Quelle est la personne qui peut vraiment faire quelque chose par rapport à tout ça? C'est nous. Si on a le sens de la discrimination, aucun souci. Si on fonce tête baissée, on va dans un centre, et puis il y a ce très grand lama qui a toutes ces qualités qu'on nous dit, elles sont illimitées, et il donne une initiation, et on s'engage avec lui, et on dit, il faut voir toutes ses actions parfaites, etc. Et on va nous dire, ah, oh, s'il te propose d'aller dans son lycée, une très grande bénédiction, etc., etc. C'est de notre côté, en fait, on n'a pas fait notre boulot pour vraiment construire quelque chose de saint. Et donc les années précédentes, quand je présentais ce sujet-là, là j'ai changé un peu de méthode. Avant, je citais directement le Dalai Lama, je lisais. Donc c'était très pesant, je sentais une ambiance parfois un peu lourde. Mais même là, je mets encore et encore l'emphase là-dessus. Pourquoi? C'est peut-être que là, bon ben, c'est moins quelque chose de moins joyeux, de porteur, etc. Mais c'est une mise en garde peut-être qui va être imprimée dans votre esprit, et peut-être cette mise en garde, si vous en tenez compte, elle pourra vous servir très très longtemps et vous préserver de bien bien des maux. D'accord. Donc après, c'est par exemple au niveau du FPMT, bon ben, on essaye au maximum de pouvoir se préserver que de se retrouver dans des situations, parce que de part et d'autre, c'est pas, c'est pour tous les participants, pour tous les acteurs, c'est absolument pas bon, ok, mais bon, après même avec toute la bonne volonté du monde, il y a les limites, mais là où on peut vraiment régler le problème de manière la plus sûre possible, c'est à l'intérieur de soi-même, en s'appuyant sur vraiment ce sens de la discrimination qui analyse et qui va pas par pas, etc., d'une manière progressive, et là on se préserve de bien des mots. Après, on peut déjà directement parler, bon, ben, s'il y a quelque chose, si ça tourne mal, que faire? Donc, si la personne vraiment nous a quand même apporté des belles choses, ok, si ça tourne mal, on crée une distance physique avec cet être, cet individu. L'acte qu'il a fait est un acte qu'on ne peut pas cautionner, c'est clair et net. Mais après, on garde aussi un respect intérieur pour toutes les qualités positives qui nous ont été amenées, d'accord ? Et l'état d'esprit le mieux, en fait, c'est avoir un état d'esprit calme, serein, qui autant que possible va utiliser cette expérience négative, plus ou moins difficile, très difficile, d'une manière constructive. Ok, se dire, ok, j'ai manqué de vigilance, donc je sais pas, c'est pas, parce que parfois aussi le problème, c'est que dans ce genre de situation, on va dire le maître il est parfait, donc l'erreur est toujours de la part du disciple. Ok, donc non, c'est pas vrai. De la part du disciple, il y a des choses à corriger, c'est vrai. Le manque de discernement, le manque de prudence d'aller d'une manière progressive, okay, mais de la part du maître aussi. Donc après, ça, on peut bien reconnaître. Et après, c'est essayer de développer donc une attitude sereine, tranquille. Il y a eu, de par le karma, des circonstances difficiles, s'en servir pour grandir intérieurement et aussi bien arriver à dissocier l'individu, son comportement, de, par exemple, du bouddhisme, de ce que peut nous apporter le bouddhisme. L'individu n'est pas le bouddhisme à part entière. Parce que des fois, on va se retrouver dans une situation comme ça et on va avoir un rejet total par rapport au bouddhisme. Donc là, c'est dû à un mécanisme intérieur où on cristallise trop, ok, et ça correspond pas forcément à la réalité. Peut-être que le bouddhisme, il a quelque chose à nous apporter. Et si en fait, on progresse encore une fois d'une manière très progressive, comme je l'ai mentionné encore et encore, on arrivera toujours, donc, d'une part, à se préserver au maximum, et s'il y a des accrochages, un petit peu, à arriver à toujours bien discerner, ok, la part d'erreur chez les individus, etc., de, donc, l'individu, ses actions, le bouddhisme en général, et donc là, on va pas se retrouver dans une situation où on pourra tout mettre à la poubelle.
Oui, alors là, d'accord, par rapport à nous, on peut le régler par rapport à nous, le problème. Mais comment on fait pour que d'autres personnes ne se retrouvent pas dans une même situation qui peut être très grave ?
Vous faites comme moi. Tout simplement, non ? C'est mettre en garde les gens.
Raconte aux autres ce qui s'est passé, et puis c'est tout.
Ce qui est avéré, vous pouvez le dire.
Quand c'est arrivé à toi ?
Ce qui est avéré, vous pouvez le dire, et pas dans un esprit de nuisance, mais dans un esprit de protection des individus. Et après, je pense tout simplement, regardez la manière dont j'essaie de le faire aujourd'hui, c'est donc une mise en garde, mais je ne pointe du doigt aucun individu particulier. Pourtant, j'ai plusieurs exemples très 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 précis, mais ça ne sert absolument à rien, parce que peut-être que dans certains de ces exemples, les personnes ont reconnu leur erreur, etc. Sincèrement, essayent de changer. Sincèrement, quand même des qualités qu'ils peuvent apporter. Donc, ça sert à rien du tout. Mais donc, il y a une réalité. Donc, tenir compte de cette réalité, faire prendre conscience aux autres qu'il y a cette réalité et qu'il y a des moyens de s'en préserver. Et puis après, donc, vous pouvez utiliser des exemples plus généraux, comme ce matin, on a parlé des sectes, etc. Au niveau spirituel, même dans le bouddhisme, il peut y avoir des dérives qui vont aller presque jusque-là. Donc après, c'est prendre ces exemples extrêmes et dire, bon, ben, il y a des choses qui peuvent se rapprocher de ça, plus ou moins, donc il faut faire attention. Le micro pour derrière.
— C'est pour. Je l'ai lu aussi l'article de Marianne. C'est un copain qui me l'a passé. Et même avant qu'on m'en parle, puisque j'ai fait la retraite d'hiver à l'Erabling et qu'on avait ce Galerie Rinpoche donc en streaming, en vidéo streaming d'Australie. Bon, c'est la première fois que je le voyais. J'ai beaucoup de mal. Déjà, cet article, quand je l'ai lu, m'a paru complètement très très nuisible, carrément à tout le bouddhisme tibétain. Il avait déjà un parti pris. Il était, pour moi, c'est des propos diffamatoires. Voilà, moi, ce que j'en pense. Après, c'est vrai quand on met en avant, comme vous le faites, la perception du ce qui se joue entre le maître et le disciple. Donc, c'est notre degré de perception, de discrimination, etc. C'est pas facile parce que c'est pas des choses qu'on contrôle. C'est un petit peu à notre insu. Mais d'emblée, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était de la diffamation. Et parce que vraiment, les propos sont vraiment tournés contre la spiritualité du bouddhisme tibétain. C'est ce que j'ai perçu. Et donc, voilà, et c'est pas le premier maître qui sera attaqué, de toute façon. Hein. On a crucifié le Christ, etc., etc.
Donc
la vigilance, elle est où par rapport à cet extérieur, à ces obstacles externes aussi?
Donc après, ben, si des gens propagent des idées fausses ou des accusations fausses, si on a un sens de discrimination, on juge, on se donne les moyens de justement faire la part du pour et du contre de ce qui est véridique, de ce qui ne l'est pas. Donc moi, après, sans rentrer dans aucun cas de figure précis, je vous dis, c'est une réalité. Il y a des abus. Tout simplement, je peux prendre là un exemple très précis, par contre, parce que c'est un jeune tout le coup qui s'appelle Kalu Rinpoche. Peut-être que certains d'entre vous, ben, il a posté une vidéo sur les différents moyens de communication, YouTube, Facebook, tout ça, etc. Et donc, il a été reconnu comme un très très grand tout le coup, d'un très très grand maître. Il a directement, clairement exprimé qu'il a été abusé sexuellement dans son monastère. Donc, ce sont des choses bien réelles. Il s'est retrouvé dans une situation où son manager a voulu le tuer. Donc, c'est des cas de figure bien réels. Moi-même, j'ai été confronté à des témoignages de personnes qui se sont avérées d'abus. Donc, il y a une réalité. Okay ? Donc, après, c'est... il faut savoir ça, et dans votre choix de votre maître, il faut prendre le temps et vous assurer qu'il ait les qualités requises. Et un des fondements pour établir ce jugement, c'est a-t-il une éthique correcte ou pas ? Okay ? Et après, tomber dans un principe de ragot, etc., dira un tel... Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est nous transformer intérieurement. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir obtenir les outils pour faire ça. Arriver à un moment, on va avoir besoin d'un maître spirituel. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un maître qui a vraiment les qualités pour faire ça. Et donc là, moi, je vous donne un petit peu les outils pour arriver à faire le bon choix. Après, c'est à vous de faire votre choix. Ok ? C'est bon ? Ensuite, on parle beaucoup des qualités du maître. Il y a les qualités du disciple aussi. Là, vous allez me dire, c'est pas juste, je vais passer à une vitesse dessus, extrêmement rapide. Donc, si vous prenez votre feuille, là, avec les qualités du maître, les 10, les 5, les 3, au dos, il y a les qualités du disciple. Tiens, juste pour revenir, par rapport à cet article, on dit c'est extrêmement préjudiciable pour le bouddhisme en général. C'est vrai. Et la meilleure façon de se préserver de ce genre de choses, c'est d'avoir une éthique pure. S'il y a une éthique pure, au bout du compte, il n'y a pas de matière à accusation. Donc, si même les accusations sont faites, au bout du compte, elles s'estomperont d'elles-mêmes. Donc, le disciple doit être honnête. Donc là, on nous dit c'est impartial. Il doit avoir un comportement qui n'est pas biaisé directement avec des préjugés conçus sur l'attachement, l'aversion, qui va privilégier certaines choses que d'autres, mais un état vraiment donc d'ouverture, une certaine équanime qui regarde. Il doit être intelligent, et quand on dit intelligent, c'est justement avoir ce sens de sagesse qui arrive à discriminer des enseignements authentiques de ceux qui ne le sont pas. Okay ? Et encore une fois, en fait, qu'est-ce qui va nous libérer du samsara ? Qu'est-ce qui va nous libérer de la souffrance et des causes de la souffrance ? la sagesse qui arrive à discriminer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Dès le début, ne serait-ce que dans le choix du maître, il faut qu'on l'utilise. Ensuite, il va falloir qu'on fasse des efforts aussi, parce que si on est trop paresseux, ben on va pas aller bien loin. Ensuite, il va falloir être respectueux, respectueux par rapport au maître, par rapport aux enseignements, et c'est pas un respect qui est développé sur une foi aveugle, c'est un respect qui est construit sur la base de la compréhension. Et finalement, il va falloir écouter attentivement, avec concentration, parce que sinon, on écoute, et puis ce qu'on entend, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, donc notre maître, il nous donne des enseignements, tout ce dont on a besoin, puis on oublie tout, donc on est obligé d'aller le revoir, et lui dire, bon, alors, et puis il faut qu'il recommence encore et encore et encore. Donc s'il a vraiment les qualités, les 10 qualités, il est jamais découragé, donc il irait encore. Peut-être que pour nous faire prendre conscience, peut-être il prendra un aspect un peu courroucé et dire bon, oh, faudrait peut-être que. Donc ensuite, là, on a choisi notre maître. Donc comment on va s'engager dans cette relation? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Donc là, on part du principe qu'on a bien choisi notre maître. D'accord? Donc ça va faciliter vraiment le développement justement de ce qu'on peut appeler parfois la dévotion au maître. Il y a deux critères de s'en remettre au maître, en action et en pensée. En pensée, on va développer la foi. Donc la foi, là, il faut absolument pas le comprendre dans le contexte habituel occidental. Parfois, peut-être je me trompe, je sais pas. Je pense parfois, il y a des personnes au niveau de certaines traditions religieuse, la foi, c'est une foi aveugle, où on ne remet pas en question ce qui est dit dans les textes, etc. Là, c'est pas du tout le cas. La foi, c'est quelque chose qui est basé toujours sur la compréhension. Et par rapport, par exemple, à au maître, c'est, on perçoit, on comprend qu'un être a des qualités. On examine, on voit qu'il y a des qualités incroyables. Okay? Donc, la foi, là, c'est quelque chose, une forte aspiration basée sur cette compréhension, cette réalité de ses qualités. Donc, il y a la foi qui est basée sur la compréhension. On développe une très grande admiration, le deuxième type de foi, par rapport à cette compréhension. Troisième type de foi, c'est ce qu'on appelle la foi émulative, d'émulation, de vouloir reproduire en soi-même ces mêmes qualités. Donc, compréhension, admiration, émulation. Et ça me fait penser à un petit point que j'ai un peu zappé pour l'instant. La foi émulation. Par rapport à la relation avec le maître, quand on prend un maître, vraiment, dans le bouddhisme tibétain, parfois on parle de pratique qui s'appelle le guru yoga. Je sais pas si vous avez entendu parler. Donc guru, toujours, hein. Guru, deux particules. Qualité, deuxième particule, lourd ou collection. Donc c'est une collection ou lourd en qualité. Cet individu, yoga, c'est un terme sanskrit qui veut dire, entre autres, joindre, dans le sens unifier. Donc on s'unifie avec le gourou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant tout, donc là, l'être, il a des qualités incroyables. On reconnaît ses qualités et on imagine se fondre avec ses qualités. On imagine, par exemple, ses qualités, elles sont avant tout des qualités de l'ordre de l'esprit. On imagine fondre notre esprit, ou faire fondre l'esprit de notre maître dans le nôtre. Et au niveau des visualisations, par exemple, tout simplement, on peut penser à notre maître, donc avoir une image très claire de notre maître dans l'espace devant nous, et on imagine qu'il se fond en nous, et au niveau de la visualisation, on va le placer au niveau du cœur, donc l'équivalent du plexus solaire, ou du chakra du cœur, plus à l'intérieur, donc il siégerait là. Mais vraiment avec ce ressenti de toutes ces qualités de sagesse, d'amour et de compassion, etc., et on les contemple complètement, et en fait on devient un avec ces qualités. Donc le guru yoga, l'essence du guru yoga, ça veut dire ça. Ça veut absolument pas dire que dans le faire un, moi j'ai vu des gens, ils imitaient toutes les mimiques de leur maître. Donc là, ça veut absolument pas dire ça. D'accord? Et c'est quelque chose d'extrêmement porteur, parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui nous inspire. On a pris le temps, il y a des qualités véritables chez un individu, on en est conscient, on les perçoit, etc. On les contemple, en les contemplant aussi, en fait, sans s'en apercevoir, petit à petit, notre esprit commence à prendre la coloration de ces qualités. Okay? Donc notre esprit devient de plus en plus vertueux. Et ça peut être une source d'inspiration énorme. Donc la foi, tout d'abord on va développer la foi, qui est basée donc sur la compréhension vraiment des qualité de la personne, d'où l'importance de prendre le temps de s'assurer qu'il ait qualité. Sinon, au bout d'un moment, peut-être que vous n'avez pas pris le temps, vous allez avoir des doutes. Qu'est-ce que vous allez faire quand les doutes ils vont apparaître là, qui ont commencé à vous exploser en pleine figure? Ça va être très difficile à gérer. Okay. Si on prend le temps, on ne sera pas confronté à ce problème. Donc la compréhension que cet individu possède les qualités, l'admiration, et vouloir les reproduire en soi-même. Ensuite, donc vous pouvez me suivre avec la page au niveau, c'est la 2 de la fiche de méditation du Lamrim, là, le premier, le maître spirituel, à la page 2, en haut, cultiver la foi, source de toutes les qualités. Et sur cette foi, effectivement, ça va devenir extrêmement simple de développer toutes les qualités intérieures. Donc la fiche de méditation au verso, la page 2. Ensuite, cultiver le respect en se rappelant de la bienveillance du maître. Donc le maître, quel type de bienveillance il a à notre égard? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Eh bien, tout d'abord, en fait, dans les textes, on nous dit qu'il a une gentillesse, une bonté qui est bien supérieure à celle d'un Bouddha. Du Bouddha. Pourquoi? Du Bouddha. Gisèle nous dit parce que lui, il est là pour nous aider. Effectivement, le Bouddha Shakyamuni, par exemple, donc il a porté énormément au bouddhisme, puisque c'est lui qui a enseigné tous les textes bouddhistes, racines, tous les sutras, tous les tantras. Okay, mais il est plus là. Par contre, le maître spirituel, pleinement qualifié, il est là et il nous transmet tout ça. Donc de ce point de vue-là, sa bonté est supérieure à celle du Bouddha. Ensuite, il a la très grande bonté de nous enseigner. Et c'est très certainement là une de ses plus grandes bontés. L'enseignement, qu'est-ce qui nous permet de faire? De nous transformer, de résoudre définitivement tous nos problèmes. Si par exemple vous me posiez la question, quelle est la personne qui a compté le plus pour moi, sans aucun moment de réflexion, je vais vous dire mon maître. Pourquoi? Il m'a donné tous les outils nécessaires pour que je puisse résoudre définitivement tous mes problèmes. Non seulement ça, mais en plus il m'a donné les outils pour que je puisse développer un potentiel illimité en moi qui me permettra, quand je l'aurai finalisé, quand j'aurai complètement actualisé, d'aider de manière illimitée autrui. Est-ce que vous pensez qu'on peut recevoir quelque chose de plus beau? Là, ça paraît presque encore utopique, mais si vraiment on prend le temps de réfléchir, un maître vraiment authentique, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne les outils pour nous libérer définitivement de toutes les souffrances, de toutes les misères, de tous les potentiels de souffrances, misères auxquels on pourrait être confronté. Vous imaginez ou pas? En d'autres termes, il nous permet de créer les causes pour pouvoir obtenir le bonheur parfait. Si quelqu'un vous donnait, je sais pas, 1 milliard d'euros, cette personne, vous l'estimeriez très certainement énormément, non? Sincèrement. Hein? C'est louche. Non, mais s'il a aucune arrière-pensée, rien. C'est louche. C'est limité. Il y a une limite à l'aide qui est apportée. Là, il nous donne les moyens d'obtenir une aide parfaite, définitive. Okay? Donc, il a une bonté qui est absolument inquantifiable, une intensité absolument illimitée. Et il est dit que, en fait, quand on réfléchit de cette manière-là, surtout plus on passe de temps avec un maître, c'est fort possible que quand on se rappelle de la gentillesse de notre maître à notre égard, effectivement, on se mette complètement à pleurer, parce qu'on ne peut rien espérer de plus beau, de mieux que ce qu'il nous donne. Ensuite, le maître, il va aussi être extrêmement bon avec nous. Dans les textes, on nous parle parce qu'il bénit notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, bénir l'esprit? C'est influer une énergie inspiratrice pour aller vers la vertu. Et dans des textes très philosophiques, il est dit qu'en fait, à chaque fois qu'on a un état d'esprit positif, vertueux, genre on est sympa avec les autres, sincèrement, hein, pas, on fait pas, on feint pas, on feint, feindre, on dit c'est feindre, c'est vraiment quelque chose de sincère. À chaque fois qu'on a un état d'esprit vertueux, dans ces textes, ils disent c'est les bénédictions des Bouddhas, c'est-à-dire tout simplement l'énergie positive de l'esprit de ces êtres qui n'ont qu'une inspiration, qu'un souhait, c'est que tous les êtres puissent obtenir vraiment ce bonheur. Et cette énergie, ces pensées, ces attitudes mentales, elles ont une certaine force, une certaine énergie qui peut inspirer. Okay ? Donc le maître, en fait, il peut bénir l'esprit. Et si je parle de ma propre expérience, souvent il suffit juste que je pense à mon maître pour qu'automatiquement mon esprit s'oriente vers quelque chose de positif. Okay ? Et juste le fait de penser à lui, je l'ai tellement associé à des qualités extraordinaires intérieures qu'il avait, qu'automatiquement ça oriente mon esprit vers ça. Donc là on peut voir aussi ce que veut dire les bénédictions du maître. Okay ? Je pense à lui, poum, automatiquement mon esprit, s'il partait dans une mauvaise direction, il va avoir tendance à revenir. Le problème, c'est si je pense pas à lui. Ensuite, le dernier type de bonté qu'il peut avoir, c'est aussi, il peut aider par ses possessions. Et si on a une relation assez proche avec le maître, effectivement, on peut être dans parfois dans des situations où on manque matériellement de quelque chose, etc. Et le maître peut vraiment prendre en charge les besoins de son étudiant, de son disciple. Et donc moi j'ai connu des maîtres qui, quelqu'un voulait aller prendre l'ordination, il n'avait pas les sous pour faire ça, le maître allait lui payer le billet d'avion pour qu'il aille prendre l'ordination avec le Dalai Lama ou ce genre de choses. Okay, donc il y a des cas de figure comme ça. Donc voilà pour ce qui est de tout simplement suivre un maître par la pensée. Ensuite il y a suivre le maître au niveau des actions. Donc au niveau des actions, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout d'abord, dans les textes, on nous dit on peut faire des offrandes matérielles. Donc là, on se dit, ah ça y est, on est retombé dans les sectes, ils vont nous demander des sous. Donc là, il faut le replacer déjà bien dans le contexte. Qu'est-ce que je vous ai dit que le maître nous apportait ? S'il est vraiment authentique, les outils pour obtenir le bonheur parfait, les outils pour obtenir un état où on va vraiment pouvoir aider les autres. Okay ? Ce qui nous donne n'a aucun prix. Donc si vraiment on a cette compréhension, de lui faire des offrandes matérielles en retour, c'est insignifiant. Encore d'expérience, quelque chose qui me procure énormément de joie, c'était quand je pouvais faire des offrandes même matérielles, ne serait-ce que des fruits ou un peu d'argent à mon maître. À ce sujet, quand les Tibétains disent aussi, quand on crée pour la première fois, on veut vraiment créer une connexion avec un maître, on veut que quelqu'un devienne notre maître. La première fois qu'on crée cette connexion, c'est bien de lui faire des belles offrandes par rapport à ce qu'on peut, ce qu'on estime être des belles offrandes. Donc ne serait-ce qu'une très belle corbeille de fruits, etc. Et au niveau de l'interdépendance, il est dit que c'est un signe de bon augure qui va signifier qu'on va pouvoir recevoir beaucoup d'enseignements, de conseils, etc., de la part de ce maître. Et là encore d'expérience avec mon maître principal, donc un des premiers liens que j'ai eu avec lui, c'est quand il m'a donné l'ordination. Et donc on m'avait dit c'est bien auspicieux de faire des offrandes. Donc à l'époque j'étais très jeune, j'avais très peu de moyens, mais bon, j'ai fait par rapport à ce que j'avais des belles offrandes, donc là en l'occurrence entre autres des fruits, etc. Donc par rapport à ce que je pouvais au niveau de l'intention, etc., c'était vraiment des très très belles offrandes. J'ai reçu énormément d'enseignements de lui. Il y a d'autres maîtres que j'estime énormément. Au premier contact avec eux, j'ai peut-être pas donné énormément. Je reçois pas grand-chose d'enseignements, même si je le veux. Hein, c'est pas, ils veulent pas me donner des enseignements. Mais les concours de circonstances font que ça joue pas. Donc là, vraiment au moment de créer le premier lien, si on accepte un maître, etc., donc ça n'a absolument pas besoin d'être des choses mirobolantes, hein, mais vraiment d'offrir belles choses, etc., c'est un signe de très très bon augure. Donc après aussi, donc quand je faisais des offrandes à mon maître, c'était quelque chose qui m'apportait énormément de joie. Comparé à ce qu'il me donne, c'est insignifiant. Okay. Parfois aussi, par exemple, par rapport à mon maître, si j'avais un peu d'argent, je lui donnais. Mais qu'est-ce qu'il va en faire de cet argent ? Généralement, il va le réutiliser tout de suite pour aider les autres, pour créer des structures, pour pouvoir aider les autres, du matériel pour pouvoir aider les autres. Donc, c'est en fait, on supporte un petit peu ses projets. Donc, là encore, il va y avoir sur le long terme, de très très grands bénéfices. Après, on se repasse en plus encore dans le contexte. Qu'est-ce que je vous avais dit que, en fait, ça impliquait la relation du maître à disciple au niveau du Hinayana, des sutras? Comment on voyait le maître au niveau du Hinayana, c'est-à-dire la personne avec qui on prend refuge ou les vœux? Et non. Un être humain, un ancien dans le sens, un ancien qui a une expérience, etc., qui la transmet, ou notre abbé, ou etc. Qu'est-ce que je vous avais dit par rapport au maître du Mahayana? Un être humain aussi, mais dans les textes, il nous est dit, on le voit comme un Bouddha, mais comment on le comprend? Comment sa sainteté avait dit qu'il fallait comprendre ça? Envers un Bouddha. Laurent nous dit tout ce qu'on fait envers lui, c'est comme si on le faisait envers un Bouddha. Et là, il faut le comprendre dans le sens puissance de l'action. Une action généreuse, de générosité envers le maître, offrir une corbeille de fruits au maître, a la même potentiel, la même puissance, le même pouvoir que d'offrir une corbeille, d'avoir offert une corbeille directement au Bouddha. Okay. Donc au niveau du karma, l'action positive ou négative a exactement le même poids. Donc une offrande par rapport au maître, c'est quelque chose de vertueux et qui va être extrêmement puissant. En fait, quand on fait des offrandes, on crée des vertus. Ces vertus, c'est cause de quoi? Bon karma, c'est du bon karma, c'est pas la cause pour... C'est le bon karma, c'est la cause pour quoi? Une bonne renaissance humaine. Pas forcément, c'est une cause pour des expériences favorables, positives, futures. Donc, en faisant ça, on crée que des causes pour se retrouver dans des situations favorables, propices, donc au niveau juste de l'expérience agréable, ou créer les causes pour trouver des conditions favorables pour notre propre pratique, etc. D'accord? Donc, là, moi, je vous parle vraiment en tant que, tout simplement, pratiquant, etc. Il faut bien comprendre ce qu'est la générosité. C'est pas, on est en train d'engraisser, non. C'est, on est en train de se donner les moyens aussi de créer les causes de notre bonheur futur. On est en train de créer les causes pour obtenir le potentiel positif nécessaire pour nous transformer intérieurement. Notre exemple. J'essaye de recevoir des enseignements. Depuis des années. Et c'est des enseignements pas du tout exceptionnels. Donc il y a différents lignages. Okay. Donc ce type d'enseignement, on les trouve dans beaucoup de lignages, mais dans le lignage particulier que je veux, la pratique a dégénéré. Il y a de moins en moins de personnes qui font cette pratique, donc il dégénère et cet aspect est très difficile à trouver. Peut-être, je sais pas, je vais découvrir plus tard, impossible, j'en sais rien. Donc... pourquoi je suis confronté à une telle situation? Donc peut-être vous allez me dire, même si t'étais intelligent, ben va voir dans les autres lignages et puis te casse pas la tête et puis tu l'obtiendras, ces enseignements. Pourquoi j'ai une très grande difficulté à trouver ça? Tout simplement un manque de karma positif par rapport à cet aspect particulier qui fait que la chose ne peut pas apparaître. Les causes pour que cette chose existe ne sont pas présentes, ne sont pas réunies, et d'un point de vue bouddhiste, on va dire, donc comme c'est quelque chose de qui amènerait vers vraiment quelque chose de vertueux, c'est quelque chose de positif, etc., ça doit dépendre d'une très grande quantité d'énergie positive accumulée dans le passé, et peut-être que donc là, il manque certains facteurs. Donc de créer encore et encore et encore d'énergie positive peut nous permettre, au bout du compte, de réaliser nos souhaits les plus chers. Et par exemple, peut-être une des techniques pour qu'un jour, finalement, je reçoive ces enseignements, c'est d'accumuler énormément d'énergie positive sous différentes formes, en pratiquant la générosité, en pratiquant l'éthique, la patience, l'effort joyeux, la concentration, la sagesse, tout ça. Philippe.
Oui, je voudrais réagir à ce que tu viens de dire immédiatement, là, en disant que si tu n'arrivais pas à avoir ces enseignements, c'était parce que tu n'avais pas créé les causes.
Ah, tu vas me donner la solution. Merci, non. Philippe.
Non, mais pour qu'un karma mûrisse, si j'ai bien compris, il faut deux choses. Il faut des causes et des conditions.
Oui.
Donc tu as peut-être réuni les causes, mais peut-être que les conditions ne sont pas réunies.
Je sais pas. Je me demande.
Bien sûr,
parce que
je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas.
Non, mais je te dis ça parce que je te dis
je
ça
dis
parce
que ce qui m'étonne, c'est que abruptement, tu dises que tu n'as pas réuni les causes.
Je te dis ça. Je te dis ça parce que les conditions, bon, dans certains cas, je pense qu'elles étaient quand même. Il y avait pas mal de conditions qui étaient là. Par exemple, un maître. Il y avait un maître. Je pense qu'il avait ce linéage, mais il est très très vieux. Il m'a dit bon, là, je suis trop vieux. Mais bon, peut-être que si j'avais eu un peu plus de mérite. Il y aurait eu plus d'enthousiasme pour me transmettre.
Tu veux, je te prête mon fouet, je m'en sers, il est assez efficace aussi.
Non, mais tu sais, je suis pas traumatisé, hein, je suis absolument pas. Mais,
non, tu as dit toi-même, on rentre pas dans une joute, hein, mais tu as dit toi-même que c'était quelque chose qui était en train de dégénérer, apparemment, une lignée qui était en train de dégénérer. Donc, ça aussi, c'est des conditions extérieures quand même. Mm-hmm. Alors, peut-être qu'il fallait que tu naisses plus tôt pour que la lignée
non, mais,
encore dégénérer, mais là on peut épiloguer sur beaucoup de
choses. Je suis absolument pas désespéré parce que par exemple dans le cas précis j'ai la réponse au problème. Si sous forme humaine je peux pas trouver un individu qui me donne, si je développe des niveaux de concentration extrêmement élevés, je pourrais accéder à des formes beaucoup plus pures qui ont ces enseignements, donc qui pourraient me les transmettre. Donc c'est absolument pas désespéré.
Et
par contre,
quand tu arriveras à l'omniscience, de toute façon, tu les auras aussi.
Je les aurai aussi. Mais là, c'est les techniques pour obtenir l'omniscience, justement. Donc les offrandes matérielles. Donc là, il faut vraiment le voir. Par exemple, je vais peut-être vous raconter des petites histoires qui se passaient en Inde. Très souvent, il y avait par exemple des traducteurs tibétains qui partaient du Tibet et qui allaient en Inde pour recevoir des enseignements, des lignages. Et avant de partir, ils récoltaient énormément de possessions, d'or, d'argent, etc., pour pouvoir recevoir les enseignements. Parce que généralement, quand on allait demander des enseignements, le maître disait « Bon, ben, qu'est-ce que tu m'offres ?» Et puis c'était une manière de tester aussi la valeur que l'individu donnait à ce qu'il demandait, ok? Parce que il y a des fois, par exemple ici, non, le centre essaye de au maximum d'offrir le dharma et demande une participation libre par rapport aux besoins des gens, etc. Donc il y a certaines personnes qui peuvent dire bon ben le dharma ouais c'est facile d'accès, etc. Et puis petit à petit sans le savoir en fait on déprécie complètement vraiment ce qu'on est en train de recevoir, ce qu'on peut faire avec ça. On donne absolument pas de valeur à ça. Donc à cette époque-là en Inde, en fait, très souvent peut-être que le maître disait bon ben qu'est-ce que t'as à m'offrir, et puis des fois il disait non, c'est pas suffisant. Pour vraiment tester quelle valeur on donnait à l'enseignement. Et des fois, donc la personne, elle arrivait avec de la poudre en or, des quantités astronomiques, et puis le yogi indien, il prenait l'or et puis l'achetait parce qu'il n'en a rien à faire de lui de son côté. Okay. De ce qu'il, les réalisations qu'il a à l'intérieur, etc., suffisent bien amplement pour tout. Donc, c'était juste vraiment pour tester l'individu. Il prend ça, hop, il jette, et puis l'autre, là, il est mort. Il est dégoûté de la vie. Mais c'est pas grave. À ce moment-là, il peut recevoir ses enseignements et puis vraiment se transformer intérieurement et vraiment, donc, donner des réponses très profondes à ses problèmes et puis développer les qualités pour aider les autres. Patricia.
Ça me pose toujours un problème. C'est pas la première fois que j'entends un enseignement sur le maître spirituel. Et je suis toujours confrontée au même questionnement. C'est-à-dire qu'en théorie, je comprends très bien tout ce que tu veux nous faire passer. Mais qu'en pratique, je n'ai pas de maître spirituel et que je n'arrive pas à comprendre comment je vais le trouver. C'est-à-dire que, en fait, pour prendre mon cas personnel, j'ai une connexion particulière avec Lama Yeshe. Il n'est plus de ce monde.
Oui.
J'ai une connexion particulière avec Robina, elle n'est pas française. Donc quand je veux avoir des réponses, je vais interroger un moine à Nalanda, je vais te poser une question à toi, je vais demander à Michel, je vais demander à Charles. Mais en finalité, je pense que comme la culture bouddhiste est quand même tibétaine, à chaque fois que j'ai une connexion avec quelqu'un, il y a toujours une barrière, enfin avec un maître, je veux dire, il y a toujours la barrière de la langue.
Donc il y a les traducteurs pour ça.
Ouais, mais je sais pas, je crois que j'ai besoin personnellement de pouvoir poser des questions à quelqu'un qui parle ma langue. Je sais pas, c'est
après...
pour ça du coup je suis toujours un peu sur ma faim d'attendre de voir s'il y a quelqu'un qui va se profiler à l'horizon. Mais pour l'instant, je glane un petit peu à droite à gauche, mais je n'arrive pas encore à comprendre comment, quand ça va venir.
Voilà. Donc après, il faut voir que...
C'est ça, je n'ai pas réuni les causes.
Peut-être aussi, il faut être prendre un petit peu de recul et voir qu'un maître peut être qualifié pour nous, on peut avoir une connexion, sa manière d'être, etc., nous convient, mais qu'après, peut-être on rajoute des critères, d'autres critères qui nous bloquent après d'obtenir ce qu'on pourrait obtenir de la personne. Donc là, entre autres, que tu veuilles absolument que tu puisses communiquer directement avec l'individu, là, c'est une réflexion que je te propose. Est-ce que ce critère que tu te mets en plus, ça va pas te bloquer, justement, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui va pouvoir te donner énormément ?
Mais admettons quelqu'un, je sais pas, comme Robina, est-ce que ces personnes-là prennent le temps matériel, je veux dire, de répondre aux demandes, je sais pas, par internet, enfin je sais pas par quel biais, mais pour moi c'est impalpable.
Sûrement,
c'est
oui.
C'est pas un contact direct avec la personne, c'est ce qui me dérange un peu, quoi.
Donc après, si tu trouves pas justement ce que tu recherches, après c'est regarde si ce critère que tu mets va pas t'empêcher d'avoir une relation avec, parce que par internet tu peux même, par exemple, parfois, je prends un exemple tout bête, Chödön Rinpoché, donc c'est un lama tibétain très vieux qui parle ni anglais ni français ni rien du tout, etc. Mais quelqu'un pourrait analyser et considérer qu'il a toutes les qualités requises pour être un maître au niveau du Hinayana, Mahayana, du Tantra, etc., décider de s'engager dans une relation avec lui, et avec les moyens actuels, par exemple, ben, tu peux communiquer avec lui, tu peux tout simplement écrire à son intendant qui parle l'anglais, donc si toi tu parles pas l'anglais, ben, tu te fais aider pour écrire ton message clairement, etc., et son intendant transmet tes questions à ce maître et il te répond, et tu as les réponses à tes questionnements, des conseils de pratique, etc., etc. Donc la langue n'est pas forcément du tout un obstacle, elle l'est de moins en moins. Donc après, tu vois, réfléchis justement par rapport à ce critère de la langue, si est-ce que tu es pas en train toi-même de te mettre un obstacle pour créer une connexion qui pourrait déjà être existante si tu as analysé et que tu estimes vraiment ton âme et conscience, après un bon examen, que la personne a les qualités requises.
Après, c'est vrai que c'est aussi une expérience personnelle, de même ne serait-ce que avec des maîtres qui viennent ici ou des personnes qui ont fait des stages qui parlaient par exemple qu'anglais. J'ai pas un très bon anglais et j'arrivais pas, même avec un traducteur ou une traductrice, à dire précisément les ressentis que j'avais et les besoins que j'avais de réponse. Donc je restais un peu frustrée parce que j'arrivais pas à m'exprimer vraiment précisément.
Donc après, c'est peut-être aussi à toi, de pas en direct, mais de prendre le temps de poser et d'essayer de vraiment regarder à l'intérieur et de prendre le temps pour formuler précisément, correctement, ce que tu essayes de dire. Tu vois, pour que la personne après puisse te répondre. Donc après, bon, bah, c'est prendre du recul et puis petit à petit essayer de donner les moyens, bah, d'instaurer une communication qui pourrait être extrêmement productive.
Et concrètement, mettons, j'en reviens à Robina, parce que c'est vrai que c'est sa manière d'enseigner correspond à son côté Lucky Luke, ça me plaît assez bien, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu vraiment une connexion particulière avec elle dès la première fois qu'elle est venue. D'un point de vue concret, comment on fait si je voudrais que Robina soit mon maître, comment je fais pour lui demander? Comment je fais pour est-ce qu'il y a un protocole particulier?
Donc il y a pas à partir de quel moment là on n'a pas vu ce point-là, à partir de quel moment une personne devient notre maître? C'est avant tout quand nous, dans notre cœur, on décide que la personne est notre maître, à ce moment-là on commence à s'engager dans une relation. Après, tu peux officialiser ça. Après, si tu veux communiquer avec Robina, un moyen tout simple, c'est demande à François, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de communiquer avec elle, par exemple par internet ou quelque chose. Et peut-être que lui, il sait. Donc moi, ça, je ne le sais pas, je ne peux pas te dire. Mais c'est fort possible qu'il y ait des moyens simples de communication avec elle.
Quand on débute dans le bouddhisme, on ne sait pas ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. On ne sait même pas comment.
Après, c'est sûr, il y a les différences culturelles. Mais si vraiment, par rapport à votre culture, vous êtes dans une attitude de respect au niveau de ce que vous générez intérieurement, c'est basé sur du respect. Donc si même il y a un petit peu des couacs de par les différences de culture profondément, il n'y a aucun problème parce que votre attitude intérieure, elle est juste par rapport à ce que vous êtes, par rapport à votre culture, etc. Un exemple tout bête, c'est important d'avoir un respect envers le maître spirituel qu'on a accepté. Et il y a donc les différences culturelles. Tu parlais de Lama Yeshe, il a beaucoup enseigné en Occident, il a justement l'aspect principal de son activité, elle était par rapport aux Occidentaux, etc. Et une fois, il y a des moines tibétains qui étaient, je crois que c'était en Italie ou dans un pays, des disciples de Lama Yeshe qui étaient tibétains. Et ils ont vu comment se comportait un des intendants de Lama Yeshe qui était occidental, italien. Et ils étaient là, ils disaient... Mais ils n'en croyaient pas leurs yeux, quoi. Ils s'arrachaient les yeux, les cheveux, le peu de cheveux, comme ils étaient moins, ils étaient rasés. Des fois, non, ça, il est un petit peu poussé. Donc, quel manque de respect, etc. Et là, Lama Yeshe est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous racontez n'importe quoi. Il est d'une culture différente. Le respect, il le manifeste d'une autre manière. Okay. Donc ce qui est important, c'est cette attitude de respect. Si vraiment vous avez cette attitude de respect intérieurement, si vraiment votre attitude intérieure, c'est une attitude noble, donc peut-être ça fait des couacs dû à des différences culturelles, etc., mais au bout du compte, ce sera positif. Donc comment on s'en remet au maître en action? On lui fait des offrandes matérielles, ensuite donc on marque des signes de respect et on essaye d'offrir service à notre maître. Donc une très bonne chose à faire, c'est surtout si le maître a beaucoup d'activités pour répandre le dharma, etc. Donc donner des outils, des réponses aux gens. Si on aide notre maître dans son activité, on aide dans cette propagation du dharma. Donc c'est une très très bonne chose. Donc d'aider les projets de notre maître ou un exemple tout bête, quand j'étudiais en Italie, donc j'étais très proche de mon maître et parfois il devait faire des rituels ou des initiations, etc. Et donc ça m'arrivait de partir avec lui pour faire les tormas, etc., etc. Donc ce genre de choses, s'il avait besoin, des fois il avait besoin de quelque chose, il me demandait est-ce que tu peux faire. Donc tout ça c'est des très très bonnes activités à avoir à l'égard de son maître, et encore une fois elles ont un poids extrêmement important. Rappelez-vous, en fait, par rapport à notre maître spirituel, nos actions ont le même poids que si on les faisait directement vers un Bouddha. Et enfin, et c'est la chose la plus importante, comment se relier au maître en action, tout simplement pratiquer les instructions qu'on reçoit de lui. Donc là, on met un bémol. Si ces instructions sont en désaccord avec le dharma, qu'est-ce qu'on fait? On le quitte. Non. Non. D'abord, on lui dit. On lui dit avec, sous forme de respect. On dit ça, non, on peut pas le faire, etc. Et on peut lui expliquer. Même s'il nous donne des instructions qui sont en accord avec le dharma, mais que, vraiment, en âme et conscience, on s'en sent complètement incapable, on peut aller auprès de la personne et dire non. Pour telle et telle raison, donc avec cette attitude de respect. D'accord? Donc là, c'est garder bien ça à l'esprit, parce que parfois, dans certains textes, on dit, dès que le maître dit de faire quelque chose, on fait carpette, on s'aplatit complètement, on s'exécute sans le moindre... Et dans certains textes, on dit, si on ne fait pas ce que le maître dit, on va aller pourrir en enfer pendant des éons et des éons. Non, mais là, vous rigolez, parce que vous avez un regard sain par rapport à tout ça, mais dites-vous qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où on leur a dit ça, etc., et ils sont confrontés à cette situation, et ils sont torturés intérieurement, et ils se disent, ah, si je le fais pas, je vais aller en enfer, mais en même temps, ils peuvent pas, quoi, et donc parfois ils se forcent, etc., et il y a des traumatismes. Donc si c'est en accord avec le dharma, et là la base, avec une éthique de base pure, qu'on est capable de le faire, on le fait. Si c'est pas en accord, on s'excuse, on explique pourquoi, d'accord. Et si c'est au-delà de nos forces, etc., on dit non. Par exemple, un maître, il peut avoir un projet, et puis il peut nous demander d'être le directeur de projet. Okay, et vous avez une famille, etc., et non, là, vous dites non, ça va être au-dessus de mes forces. Donc, vous allez le voir, et puis vous lui expliquez ouvertement, de manière tout à fait respectueuse, même par rapport à un rapport humain normal, de respect, etc. Et puis, donc là, il n'y a absolument aucun souci. Ça marche ? Donc, voilà comment s'en remettre au maître en pensée et en action. Après, dans les textes, eh bien, on nous parle des bénéfices à s'en remettre à un maître. Et donc là, encore une fois, à s'en remettre à un maître pleinement qualifié. Le premier des bénéfices, c'est qu'on va devenir, on va se rapprocher de plus en plus de l'illumination. Pourquoi ? Parce que toutes les façons, qu'est-ce qu'il fait ? Le maître, il nous donne tous les outils, justement, pour se transformer intérieurement, pour aller vers cet état. On va réjouir tous les Bouddhas. Donc vous pouvez me suivre, c'est toujours la page 2, en bas. On réjouit tous les Bouddhas. Les Bouddhas, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Ils souhaitent qu'on obtienne le vrai pur bonheur de la libération. Ils souhaitent qu'on aille vers l'état de la bouddhéité. Donc si on s'en remet à un maître qualifié et qu'on met en application tout ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'on fait ? On se rapproche de ces buts, donc ils sont extrêmement heureux. Là, il y a le troisième point, il est peut-être un petit peu plus obscur pour nous, qui honore le maître spirituel, n'a rien à craindre des démons et des mauvais amis. Donc les mauvais amis, c'est quoi ? Les mauvais conseillers, ouais, c'est les copains qui nous dévergondent et qui nous font faire plein de bêtises, etc., qui ont tendance à nous pousser un peu vers le vice, tout simplement. Ou si, par exemple, vous essayez vraiment de vous atteler à la concentration et qu'il y a vos copains qui essaient de vous distraire encore et encore et encore. C'est un petit peu ça, les gens, les mauvais amis. Puis les démons, donc, d'un point de vue bouddhiste, il y a différents types de renaissance. Donc là, c'est un sujet de réflexion, de débat, d'analyse. Est-ce que les démons peuvent vraiment exister ou pas ? On prendra le temps peut-être au prochain module, je pense, parce que c'est la mort et la renaissance. Donc renaissance, qui dit renaissance, dit différents royaumes. Mais en fait, si on s'en remet au maître, qu'est-ce qu'on fait ? On crée toujours plus d'actions positives, d'énergie positive, de potentiel positif. Et ces potentiels positifs, c'est justement la cause pour se retrouver dans des conditions toujours plus favorables. Et éviter des conditions toujours plus défavorables, justement avec des nuisances extérieures qui auraient tendance donc à créer des obstacles à notre pratique. Qui honore le maître spirituel, mais aisément un terme aux perturbations mentales et aux fautes. Donc le maître spirituel, eh bien, il nous donne tous les outils pour maîtriser les perturbations mentales, pour s'abstenir de commettre les actions négatives. En plus de ça, il y a une énergie inspiratrice, comme un aspirateur, on le suit, et inspirante, qui va donc nous donner la volonté, la joie à mettre en pratique tous ces outils, et donc on arrive facilement à détruire l'ignorance, l'attachement, l'aversion, à s'abstenir de commettre les actions non vertueuses. Qui honore le maître spirituel voit s'accroître sa compréhension et ses réalisations des terres et des voies. Donc là, ce passage-là n'a plus aucun secret pour Romain, puisqu'il a donné une explication très détaillée de ce qu'étaient les différentes terres et les chemins. Donc les terres et les chemins, vous vous rappelez le tableau diabolique ? Juste vous en rappelez l'image, quoi. Vous vous rappelez plus le contenu, mais l'image. Donc c'est ça, voilà. On parcourt très rapidement. Donc on aura une compréhension, déjà, d'une, il est plus du tout diabolique, et puis on le parcourt très très rapidement. Donc en fait, c'est on développe les réalisations très rapidement, le renoncement, l'esprit d'éveil, l'union du calme mental et de la vue profonde, vipassana. On développe rapidement la réalisation directe de la vacuité associée à l'esprit d'éveil. On développe rapidement toute la maîtrise des différentes perfections, générosité éthique, patience, concentration, effort joyeux, concentration et sagesse, etc., etc. Qui honore le maître spirituel ne se trouvera jamais sans maître dans ses vies futures. Si dans cette vie-ci, en fait, on choisit un maître vraiment avec des belles qualités et qu'on le suit, etc., on crée tout simplement les causes pour reproduire encore et encore dans le futur cette même situation de pouvoir trouver un maître spirituel et s'en remettre à lui. Et si on le fait bien dans cette vie-ci, on aura beaucoup de facilité à le refaire dans les vies futures. Qui honore la mise spirituelle ne tombera pas dans les royaumes inférieurs. À votre avis, pourquoi ? Déjà, ils existent, les royaumes inférieurs ? Pas sûr, ça. Hein. Donc ça, ce sera sujet de discussion. On rappellerait pour le module prochain. Mais quelle est la cause pour honnêter dans les royaumes inférieurs ou dans des circonstances difficiles ? Du karma négatif. Si on suit correctement le maître, est-ce qu'on crée du karma négatif ? Non. Même si on suit correctement le maître, tout simplement, on va purifier les potentiels négatifs. Quand je dis purifier, les neutraliser. Donc, on ne se flagelle pas du tout, Philippe. neutraliser, purification, c'est quoi? C'est simplement reconnaître qu'il y a une force, une énergie qui est source de problème. Avant que cette énergie se manifeste, qu'est-ce qu'on fait? On emploie une force contraire pour la neutraliser, tout simplement. Donc une attitude, par exemple, négative intérieure qui veut nuire à autrui, okay, une cause pour se retrouver soi-même dans une situation difficile. La purification, qu'est-ce que c'est? C'est générer une attitude intérieure positive et la retourner vers cet aspect négatif. Donc en faisant ça, tout simplement, on neutralise les causes de situations difficiles. Et donc là, ça peut être l'interprétation qu'on donne au point 7. Qui honore l'ami spirituel réalise sans effort tous ses buts ultimes et temporaires. Donc qui honore l'ami spirituel correctement, réalise sans effort le fait de pouvoir recevoir les enseignements qu'il veut. L'ami spirituel, le maître spirituel, là, dans le contexte, c'est pareil. Hein, vous le prenez de la même manière. Donc, automatiquement, si on suit correctement le maître, en fait, on développe un tel potentiel positif que tout va pouvoir se réaliser beaucoup plus facilement, puisque les choses apparaissent en dépendance de causes et de conditions. Là, on crée toutes les causes qui font que les conditions apparaissent pour que les causes et les conditions mûrissent et que le résultat soit présent. Ensuite, les inconvénients du manque de dévotion au maître. Ça, c'est un point très difficile. Les inconvénients du manque de dévotion au maître, c'est-à-dire, bon, on s'en remet pas à un maître. On cherche pas un maître qualifié, puis on s'en remet pas à lui. Ou on a trouvé un maître qualifié, mais on s'en remet pas à lui. Ben, les inconvénients, c'est quoi? C'est l'opposé de tout ce qu'on a vu. C'est rapide. Donc, ben, tout simplement, on va pas se rapprocher de l'éveil. On va pas réjouir les Bouddhas. Donc, si vous avez une belle attitude de vie, si, quand même, vous allez les réjouir. On va devoir craindre les démons, etc. Donc, vous prenez juste l'opposé, et puis, vous avez ça. Ensuite, les fautes entraînées par la rupture de l'engagement qui nous lie au maître spirituel. Là, ça voudrait dire vraiment développer des attitudes très négatives par rapport au maître. Donc, je reviens juste un petit peu sur la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est reconnaître, donc, les qualités du maître. Et la foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire qu'on va se concentrer. L'entraînement qu'il faut faire, c'est se concentrer essentiellement sur les qualités et pas sur les défauts. Okay? Si vraiment quelqu'un a des qualités incroyables, qu'il a quelques petits défauts, à quoi ça va nous servir de se concentrer sur nos défauts, sur ses défauts? Ça va, en fait, tout simplement détériorer la vue qu'on a de la personne, alors qu'elle a des qualités extraordinaires, et mentalement, on va se fermer un petit peu à ce qu'il pourrait nous offrir. Et si on a vraiment fait notre choix correctement, donc la personne a vraiment des qualités extraordinaires, et notre boulot, en quoi il consiste? Il consiste essentiellement à se concentrer encore et encore sur toutes ces qualités. Et si on s'aperçoit qu'on est en train de se focaliser un petit peu sur un aspect auxiliaire, un aspect négatif mais complètement anodin, là, on essaie tout simplement de rétablir la barre. Et en faisant ça, donc, on accroît cet respect, cette foi intérieure, qui fait que quand on pense à la personne, automatiquement, il y a une source d'énergie, d'inspiration extrêmement puissante qui apparaît. D'accord? Donc, si on développait des attitudes extrêmement négatives par rapport à la personne qui nous apporte toutes les réponses à tous les maux pour nous-mêmes, pour les autres, est-ce qu'il pourrait y avoir une attitude plus odieuse, plus abominable que ça? Surtout s'il n'y a pas de raison. Hein. La personne, cette personne, elle vous donne la plus belle chose qu'on puisse espérer. Développer des attitudes négatives par rapport à cet être, ça vous semblerait être abominable. Genre, vous êtes en train de vous noyer. Quelqu'un vous sort, vous sauve de la noyade. Et vous le tuez. C'est grave, non? C'est franchement... Donc là, c'est rien comparé, en fait, à ce que nous apporte le maître. Et si on développait des attitudes négatives, ce serait littéralement, en fait, cracher sur... Ce serait complètement rabaisser absolument ces choses merveilleuses qu'il nous donne en le rabaissant, en le manquant de respect envers lui. Oui.
«
Si je me réfère au premier des 8 versets de la transformation de l'esprit en 8 versets, c'est une attitude qu'on doit déployer envers tout le monde, de ne voir que les côtés positifs des gens et pas les côtés négatifs. Quand on voit les côtés positifs des gens, on trouve toujours à quelque chose à construire. Oui. Si on se focalise sur les aspects négatifs, non seulement on se pourrit la vie, mais on pourrit la vie des autres aussi. Donc j'ai l'impression que ça s'applique en fait à tout le monde, pas simplement au maître spirituel. Ouais.
Et si on fait comme tu le dis, même on se préserve entre autres d'un facteur mental extrêmement destructeur qui est l'aversion et la colère. Parce que l'aversion à la colère, elle est construite sur quoi ? Sur le fait d'observer un aspect déplaisant chez un individu ou dans une situation. Donc si vous apprenez à toujours regarder l'aspect positif de la personne, de la situation, vous mettez pas ça. Et vous rappelez, je vous avais dit une fois, bon, on est français, on est mal barré, parce que quelle est la réputation des Français ? Des râleurs. Qu'est-ce que ça veut dire être râleur ? C'est on trouve toujours quelque chose qui va pas. Donc on est concentré sur les aspects négatifs. Okay. Donc là, il faut être des Français qui prenons un petit peu du recul et qui se disent à soi-même, bon, ça va pas, allez, on va essayer de faire des efforts. Okay. Et de regarder toujours les aspects positifs. Et là, automatiquement, le premier très grand bienfait qu'on va obtenir, c'est une joie de vivre, déjà pour nous-mêmes, qui aura une très grande incidence après aussi pour autrui. Et on va se mettre à l'abri de pas mal de soucis. Donc après, il y a huit fautes de ne pas s'en remettre correctement ou de créer une rupture dans l'engagement par rapport au maître ou de développer vraiment des attitudes négatives envers ce maître. Donc le mépris au maître équivaut à insulter tous les victorieux. Les victorieux, c'est tous les Bouddhas. Okay. Donc les Bouddhas, en fait, ils sont juste là pour aider les êtres, un maître authentique, pareil. Et le maître, il est en train de faire le travail de tous les Bouddhas pour nous. Okay, donc si vraiment on manque de respect au maître, etc., ben on manque de respect envers tous les Bouddhas. La colère à l'égard du maître détruit les racines de mérite. Donc générer vraiment de la colère envers le maître est quelque chose d'extrêmement lourd. C'est comme se mettre en colère envers un Bouddha et va détruire tout un très grand nombre de potentiels positifs. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre le temps aussi un petit peu dans le choix de notre maître, etc., s'assurer qu'il y ait des qualités. C'est pour ça que je vous dis aussi, il faut pas s'engager dans une attitude biaisée par rapport au maître, parce que sinon, si on se dit « je dois tout faire ce que dit le maître », etc., on se met une pression énorme. Mais si on comprend qu'on a encore un espace de liberté, etc., par rapport à la relation, ce qui est extrêmement important, c'est le respect. Eh bien, si une situation est difficile, on peut lui exprimer de manière respectueuse, etc. Et à ce moment-là, on n'est pas en train d'emmagasiner en nous une problématique qui crée une pression très forte, très forte, très forte. Et si on l'emmagasine encore, 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 qu'est-ce qu'elle va faire au bout du compte? Ça va exploser. Ça va se manifester, par exemple, sous forme de colère, etc. Donc, si on apprend à avoir une très bonne relation saine avec le maître, etc., on se préserve vraiment de ces différentes choses. Même en pratiquant les tantras, l'état suprême ne sera pas atteint. Donc, il est dit que par la pratique des tantras, on pourrait atteindre l'illumination en une vie. Si vraiment on a des attitudes négatives envers le maître, même en pratiquant le tantra, on n'y arrivera pas. Et ensuite, on nous dit en fait que, au bout du compte, même en pratiquant les tantras, ça reviendrait à prendre naissance dans les enfers. Donc là aussi, je pense que il faut un peu remettre ces versets dans le contexte. Il s'agit vraiment là d'une relation au plus haut niveau, donc avec un maître qui aurait les qualités du tantra, etc., nous-mêmes, ces qualités. Donc là, par rapport à ces choses-là, je pense qu'il faut pas mettre l'emphase là-dessus. Et pour nous, à notre niveau, il faut vraiment se dire ce qui est important. Si on s'engage dans une relation avec quelqu'un qui est qualifié, une relation de maître à disciple, c'est vraiment essayer d'avoir une attitude respectueuse et à notre niveau, une attitude humaine. Okay ? Et de pas projeter trop de choses chez l'autre. Okay ? Et donc, après, tous les bons conseils, les directions en accord avec le dharma qu'ils nous donnent, etc., si c'est possible, essayer de les mettre en pratique. Si c'est impossible, bon, ben, lui exprimer, etc. Mais jamais, donc, intérioriser la problématique, etc. Puis, après, en arriver à des états intérieurs, on n'arrive plus du tout à gérer la situation. Ensuite, donc, je vais juste vous citer la suite. Aucune qualité nouvelle ne sera obtenue et les anciennes dégénéreront. Donc, on détruit tout ce qui est positif. Il sera impossible de générer d'autres choses positives. Dans cette vie, les maladies indésirables se manifesteront de par l'aspect très négatif de notre attitude. Les vies futures ne seront une incessante errance dans les états infortunés. Et dans les vies futures, on ne rencontrera pas de maître. Donc là, le dernier point, je pense qu'il peut être important, c'est tout comme si on a une relation juste, correcte avec un maître, on crée les causes pour que ce soit reproduit dans le futur. Eh bien, si on a des attitudes vraiment négatives et qu'on a une relation très négative à l'égard de notre maître, etc., on crée tout simplement les conditions pour que ce soit perpétué. Alors, peut-être juste rapidement, on regarde l'évaluation du maître spirituel, les questions relativement simples. Pourquoi avons-nous besoin d'un maître spirituel ? Alors ça, la réponse, elle se trouve dans la première session du week-end, samedi matin. C'est le titre d'ailleurs sur le site internet. Non, Alexis, il veut un petit titre pour chaque session, donc c'est le titre de la première. Quelles sont les qualités maximum, intermédiaire et minimum qui font d'une personne un maître qualifié ? Là, c'est dans le contexte du Mahayana. Si vous voulez mettre aussi les qualités d'un maître du Hinayana, allez-y, pourquoi pas, je serais très content. Si vous voulez même mettre les qualités qui font qu'un maître est qualifié pour être un maître du Tantra, je vous en prie. Tous les maîtres sont-ils qualifiés ? Non ? Ah bon ? Quel danger y a-t-il à s'en remettre à un maître non qualifié ? Donc là, j'ai pas trop élaboré ce point-là, mais vous pouvez un petit peu tout simplement utiliser votre réflexion. Mais si le maître il n'a pas les qualités requises, il n'a pas l'outillage pour nous mener là où on veut aller. Donc on va pas y arriver. Et puis même, il y a des risques en fait qu'il nous propose, puisqu'il n'est pas qualifié, des choses fausses, donc qui sont source, cause de problèmes pour nous-mêmes. Okay, donc là, vous pouvez bien développer. Et puis, quel danger il y a à s'en remettre à un maître non qualifié ? On a abordé aussi ce point-là, par rapport donc à des dérives, des déviances, etc. Donc là, vous pouvez en parler. Que veut dire développer la foi en le maître ? Donc, vous pensez aux trois types de foi dont on a mentionné. Basé sur la compréhension. Donc, on admire ensuite ce qui a été compris et on veut le reproduire. Ensuite, en pratique, ça veut dire, quand on s'engage dans la relation au maître, contempler les qualités et éviter de s'arrêter sur les erreurs ou les fautes, comment on va dire? Ouais, mais supposer ou les projeter ou réels, parce que ça peut être des petites imperfections. Si on a bien fait notre travail, il a vraiment les qualités, d'accord, exceptionnelles. Donc il peut y avoir des petits trucs qui nous paraissent. Donc là, on s'arrête pas dessus. Une fois trouvé le maître, comment s'en remettons à lui en acte et en pensée? C'est ce qu'on a vu, développer la foi, développer le respect en se rappelant de sa bonté, et puis ensuite donc développer un petit peu comment on s'en remet en action. Quel bénéfice pourra-t-on tirer d'une relation avec un maître pleinement qualifié ? Donc, vous pouvez vous appuyer sur donc dans la fiche là qu'on a vue les bienfaits de la dévotion au maître. Et puis vous pouvez essayer d'extrapoler un petit peu, de prolonger un petit peu tout ça. Donc les questions qui sont relativement simples. Hein. Ensuite, par rapport à la validation de ce module. Donc vous connaissez bien le processus. Peut-être juste, en présence, il n'y a eu que 3 sessions ce week-end. Si vous en avez eu raté, vous pouvez la récupérer sur Internet. Donc là, on a mis le site, le lien du site de l'Institut Vajrayogini, où vous pouvez trouver. Ensuite, les méditations. Méditation sur les qualités nécessaires pour qu'un maître, donc le fait, c'est autre chose, hein, vous le laissez de côté, qu'un maître soit qualifié. Donc là, vous vous appuyez sur la fiche 1, la lamrim. Quand je dis fiche lamrim 1, c'est tout simplement les fiches méditation lamrim 1, le maître spirituel, celle-là. Et vous vous appuyez sur, par exemple, les 10 qualités du maître. Ensuite, vous prenez plutôt même celle-là, c'est mieux, les 10 qualités du maître, les 3, pour vous habituer à donc savoir quelles sont les qualités qui doivent être présentes chez un individu. Si vous voulez aussi faire ça un petit peu par rapport au, au maître au niveau de pour prendre l'ordination, etc., c'est très très bien. Méditation sur la nécessité d'un maître. Donc là, c'est vous pouvez vous appuyer, page 35, c'est dans les lectures recommandées. Donc comme il n'y en a que trois, c'est fort possible qu'ils vont être imprimés, ben vous battez pas pour les obtenir, mais vous pouvez regarder sur sur internet, écrire à Françoise pour qu'elle vous envoie les lectures, et puis vous allez à la page 35 des lectures demandées et vous faites cette méditation, vous aidez de ce support. La réflexion, donc là j'ai dit plus réflexion, parce que donc là c'est par rapport à vos notes, de réfléchir sur la manière graduelle d'instaurer cette relation de maître et de disciple. Méditation sur la dévotion en pensée et en action, vous réfléchissez en vous appuyant toujours sur la fiche 1 par exemple du Lamrim, ou si vous avez le gros Lamrim, appuyez-vous sur le gros Lamrim. Si vous vous procurez le petit Lamrim de Sa Sainteté le Dalai Lama, vous pouvez aussi vous appuyer là-dessus. Méditation sur les avantages de la dévotion et les possibilités d'erreur, ben c'est là ce qu'on vient de voir. Et puis après, toujours, vous pouvez continuer à méditer pour générer une bonne motivation chaque jour. Donc, soit certainement, on l'a pas mis directement dans le petit feuillet là, du matériel qu'on utilisait, parce que je vous l'avais déjà donné plusieurs reprises. Si vous l'avez pas, prenez-la. Donc après, pour faire valider le module, qui est un encouragement en fait pour utiliser ces outils de transformation, donc pour essayer de se transformer intérieurement. Si vous arrivez à effectuer durant 23 jours ces méditations, donc vous pouvez rouler, faire un roulement entre chaque jour une méditation, ok, à ce moment-là on pourra valider le module. Donc là c'est vraiment voir que donc ça paraît un petit peu scolaire, mais c'est en fait en même temps un encouragement à mettre en pratique tout ça et vraiment donc à se transformer intérieurement, donc vraiment apporter les réponses à nos problèmes de notre vie de tous les jours. D'accord. Donc vous pouvez par exemple faire une fois toutes les méditations par rapport à ce sujet-là, puis après continuer avec la motivation, ou répéter plusieurs fois certaines des méditations, etc. Là, vous êtes assez libre de comment mener à bien cet aspect-là. Les lectures demandées, donc la lecture du module, si vous arrivez à l'obtenir sur Internet, très bien. Si vous pouvez pas, etc., bon, ben, ce sera pas pénalisé. Et rappelez-vous, je vous ai dit, il y a des aspects, là, justement, dans ces lectures du module, des textes par exemple par rapport à la Mazopa Rinpoche qui donc explique un peu la dévotion au maître, et il me semble que dans certains cas il le présente d'une manière très traditionnelle, de voir toutes les actions du maître comme parfaites, etc. Donc là, servez-vous de ça comme un enrichissement. C'est franchement différent de la manière dont j'ai présenté, mais en fait la manière dont il présente, ça s'adresse à des êtres extrêmement avancés. Ils auront ce niveau de pratique, ce regard par rapport au maître. D'accord. Après, dans le gros Lamrim, à quoi correspond ce qu'on a vu au chapitre 5, page 39 à 60. Comme ça, Gisèle, elle a pas à le marquer, puisque c'est... Surtout, je n'oublie plus de le dire. Et puis, en plus, c'est marqué, là. Le très gros Lamrim, là, ouais. Donc, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Hein. On n'a pas mis facultatif. Je vous encourage à le lire, mais ça va aller. Donc, La Voie de la Lumière de Sa Sainteté le Dalai Lama aux éditions J'ai lu. Là, je vous conseille vraiment très très fortement. C'est entre autres là. Donc, le Dalai Lama exprime vraiment la manière qu'il considère être juste pour les Occidentaux, de comment s'engager dans une relation par rapport au maître. Et puis après, vous pouvez aussi donc enrichir un petit peu votre compréhension, inspiration, etc., en lisant des biographies de très grands maîtres du passé qui ont eu une relation avec leur maître très très riche, tels que Milarepa avec Marpa et Dzogchenpa avec Atisha. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Vous en avez assez là, hein? Vous avez de quoi faire? Très bien. Donc, on va s'arrêter là. Après, vraiment, en essence, prenez le temps de vous assurer que le maître est qualifié. Si vous le faites, d'expérience, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir un maître qui, pour moi, était pleinement qualifié. C'est une relation magnifique, incroyable, qui apporte énormément. Et c'est une relation qui est de cet ordre-là, si on tombe sur un maître vraiment qualifié, qui a une très belle éthique, etc. Donc, prenez le temps de vous assurer qu'il y ait ces qualités, et peut-être que vous aurez aussi cette opportunité de vivre ces très belles choses que j'ai vécues, peut-être des choses encore plus belles. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous demande vraiment du fond du cœur de pas faire comme beaucoup d'Occidentaux on a fait trop souvent, de s'engager dans des relations juste sur des coups émotifs, sans regarder où on allait, etc. Là, il y a un très très grand danger. Et vraiment, je vous en conjure, s'il vous plaît, faites pas ça. Parce que si vous avez de la chance, ça va bien se passer. Si vous n'avez pas de chance, ça se passera très très mal. Allez, on prend le livre de prière à la page 90 pour les prières de dédicace. Donc toujours en essence, en synthèse, la dédicace c'est donner une direction à une énergie positive qu'on a créée. Trois grandes prières, dédier toute l'énergie positive qu'on a accumulée dans le passé, maintenant, qu'on accumulera dans le futur, au bien de tous les êtres, pour qu'ils obtiennent vraiment le vrai pur bonheur, même l'état de Bouddha, pour que le dharma ou tous les outils qui permettent d'obtenir ce but puissent se développer, fleurir, et que les êtres parfaitement qualifiés, complètement purs, continuent de nous guider et nous enseigner, nous mener jusqu'à cet état. Et on matérialise avec la première prière de la page 90. Je dédie toutes les vertus que j'ai accumulées pour le bien des enseignements et des êtres, et surtout afin que brillent à jamais les enseignements essentiels du pur et parfait Losandakpa. Et au milieu de la page 91, grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissé-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants, sans exception, à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Et page 92, la prière de longue vie pour le Dayama. Dans ce paradis entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de tout bonheur. Ô tout-puissant Chenrezig Tenzin Gyatso, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Merci beaucoup de votre patience, de votre écoute, et je vous souhaite un très bon retour, et peut-être, j'espère, oui, et peut-être au mois prochain. Tout de bon à vous. Merci.